Comme vous avez pu l'entendre ces dernières heures sur Radio Primitive, nous avons le plaisir de vous accompagner tout au long de cette soirée un peu particulière du 12 août. En amont de cette éclipse quasi totale, nous avons eu le plaisir d'accueillir dans nos locaux Benjamin Poupard, directeur adjoint du Planétarium, pour enregistrer plusieurs petites capsules afin d'en apprendre un peu plus sur les éclipses. Et on en a profité pour lui poser plein d'autres questions, peut-être certaines que vous vous êtes déjà posées vous aussi, sans jamais oser les poser parce qu'elles vous semblaient un petit peu bêtes, ou encore des questions que vos enfants, vos nièces, vos neveux, vos cousins, vos cousines vous ont déjà posées et auxquelles vous n'avez pas forcément su quoi répondre. D'ailleurs, Benjamin, on commence tout de suite avec une première question. Pourquoi les éclipses ne rendent-elles jamais pareil en photo ?
Et alors, moi, j'ai vraiment l'exemple de l'éclipse totale, là, pour le coup. Et oui, la photo d'une éclipse ne rend jamais la magnificence du spectacle. Mais là, c'est vraiment spécifique à l'éclipse totale parce que finalement, c'est tout un environnement lumineux à 360 degrés qu'on essaye de réduire à la taille d'un écran. Donc forcément, ça marche moins bien, quoi. Il y a cet aspect-là. Après, comme on a un soleil qui va être bas sur l'horizon, là, il y aura matière à composition photographique très, très, très intéressante. À la différence d'une éclipse où le soleil serait perché en hauteur, là, qui obligera des contorsions, dans lesquelles il n'est pas possible d'incruster le soleil dans un avant-plan photographique un petit peu esthétique. Là, il y a des coups à jouer, hein, pour ceux qui savent trouver les bons spots, réussir à trouver le bon avant-plan. Je pense que certains vont se régaler et nous faire des photos assez, assez extraordinaires.
On en a parlé un petit peu plus tôt par rapport au temps. Ouais. Est-ce que s'il y a des nuages, on risque de ne pas avoir la même éclipse, de ne pas réussir à la voir de la même façon que si le ciel est dégagé ?
Eh ben, on va parler d'éclipse éclipsée, quoi. C'est ça. C'est que, oui, les nuages vont jouer les troubles faits. Ce qu'il y a, c'est que pour pouvoir observer l'éclipse en toute sécurité, on a besoin de lunettes. Et comme je disais, les lunettes ne laissent passer qu'un 10 millième de la lumière du soleil. Alors si ce 10 millième est lui-même filtré par les nuages, il ne reste plus grand-chose. Et c'est là où ça devient compliqué à observer. Oui.
Et justement, on parlait des lunettes pour se protéger. Ouais. On l'a vu un petit peu plus tôt aussi. Pour ceux qui ont des problèmes de vue, est-ce qu'on cumule lunettes de vue plus lunettes pour se protéger ?
Oui, ça pose. Alors, des fois, il faut bricoler un petit peu, mais enfin, c'est pas bien sorcier, mais oui, on peut. Hein. Ça pose aucun problème.
Alors, on a aussi pas mal documenté les effets des éclipses sur les animaux. Oui. On a toujours cet aspect, les oiseaux qui arrêtent de chanter parce qu'ils ont la sensation que c'est la nuit. Déjà, est-ce qu'il y a d'autres animaux qui sont peut-être touchés par les éclipses ?
Alors moi je vais raconter ça c'est le vécu de mon éclipse de 1999, ce moment vraiment très très surprenant où moi j'avais observé l'éclipse non pas depuis Reims mais dans la campagne au nord de Paris, pas très très loin de quelques coins de forêt, et vraiment dans les, alors on perd un peu la perception du temps, je sais pas si c'était des question de secondes ou de minutes, mais vraiment dans la foulée du retour de la lumière, moi j'ai le souvenir d'avoir vu des, je sais plus si c'était des biches ou des chevreuils sortir du bois, et c'était une vision qui était dans l'instant assez extraordinaire. Donc oui, il se passe des trucs, hein, de toute façon, ça c'est assez étonnant. On parle toujours du silence des oiseaux qui s'arrêtent de chanter, et oui, la nature comprend pas très très bien ce qui se passe, quoi.
Et on parle des animaux, mais est-ce que pour les plantes, par exemple, il y a quelque chose aussi qu'on a documenté, qu'on sait, un changement avant, après, pendant ?
Alors, c'est une bonne question à laquelle je n'aurais pas de réponse. J'aurais tendance à penser que je pense que le phénomène est trop court, mais en même temps, ce qu'il y a, c'est que... Alors, est-ce que le phénomène est trop court ? Le truc qu'il faut voir, c'est que l'œil compense les baisses de luminosité. La baisse de luminosité, on s'en rend vraiment compte pratiquement au moment du maximum du phénomène. Après, moi, je ne sais pas du tout dans quelle mesure une plante est sensible à la lumière. Enfin, quelle est la réponse d'une plante à la lumière? Donc, est-ce qu'une plante va avoir tendance, enfin, une fleur va avoir tendance à s'ouvrir ou à se fermer? Ça, c'est une, ce sera un truc à creuser, ça. Pour le coup, il y aurait des expériences à faire. Je n'ai pas, j'ai pas l'info. Étant pas botaniste, est-ce que ça aurait un effet? Oh, ce serait une belle expérience à faire, ça.
Eh bien, à tester, voilà, pour la prochaine fois, comme quoi.
Il faudrait trouver des belles de nuit, voir ce que, comment réagissent les belles de nuit à une éclipse.
Donc là, on va parler peut-être de la réaction des plantes, la réaction des animaux. La réaction de l'homme, elle est documentée depuis quand? Parce qu'on a toujours aussi cette sensation qu'au Moyen-Âge, ils avaient l'impression que le ciel allait leur tomber sur la tête et que c'était la fin du monde quand il y avait une éclipse. Est-ce que déjà, ça, c'est vrai? Ou c'est une fois de plus quelque chose... qu'on assimile au Moyen-Âge comme étant des personnes un peu incultes, alors que c'était pas forcément le cas, surtout que c'est une longue période, ou est-ce que c'est tout simplement vrai?
Bah, je pense sincèrement que pour un témoin d'un tel phénomène, alors un témoin qui n'est pas au courant, qui n'a pas été prévenu de l'occurrence d'une éclipse de soleil, la personne qui va se trouver pendant 2 minutes dans l'obscurité en pleine journée, là, il y a quand même de quoi s'inquiéter fortement de ce qui va devenir, hein, parce que cette lumière qui s'éteint, je veux dire, de manière assez brutale, ça vous offre quand même quelques instants d'angoisse qui doivent sembler très très longues.
Deux minutes qui doivent être très longues.
Ce sont des minutes qui doivent être assez interminables. Moi, j'ai toujours mon souvenir marquant de l'éclipse de 99. Alors là, pour le coup, c'était une éclipse qui était assez ennuagée, mais le retour de la lumière, moi j'ai vraiment cette image partagée avec les personnes avec qui j'avais observé, vraiment d'avoir l'impression de voir une espèce de vague de lumière arriver vers nous au loin à l'horizon. Là aussi, hein, y a quelque chose d'assez apocalyptique. Si on est, quand on est prévenu, on trouve le phénomène impressionnant. J'essaie de me mettre à la place de quelqu'un qui verrait un tel phénomène, et là il doit effectivement légitimement se demander si c'est pas la fin du monde qui est en train de lui arriver dessus, hein. Alors après, cette perception, ce qui est intéressant, c'est de la mettre peut-être en parallèle avec des visions beaucoup plus modernes, qui sont pas forcément rassurantes, mais je parlais tout à l'heure de l'éclipse de 2015. Qui, vous voyez, on parlait d'obscurantisme, enfin on évoquait l'obscurantisme du Moyen-Âge, on pourrait faire le parallèle avec l'obscurantisme de notre époque qui est encore tenace, puisque en 2015, c'était une éclipse qui avait été intéressante, qui devait être intéressante d'un certain point de vue, elle avait lieu en semaine, en fait à un moment qui était intéressant pour la partager avec des scolaires. Sauf que, quelle raison aussi, je crois que je sais, c'est que sans doute faute d'équipement, les recteurs d'académie, le recteur de l'académie de Reims notamment, avait enjoint les enseignants à quelque part à cloîtrer les élèves pendant le phénomène pour éviter tout risque de brûlure, enfin... Voilà, plutôt que de proposer des solutions pour partager un phénomène, là pour le coup rare et intéressant, eh ben, tout le monde s'est retrouvé enfermé, quoi. C'était quand même assez dramatique. Ça a été, certains profs d'ailleurs, il y a eu évidemment quelques colères. Moi, j'ai le souvenir, on avait fait, nous, au Planétarium, on avait organisé une animation publique, et je me rappelle avoir vu des parents avec leurs enfants qui expliquaient que, nous, là, là, pour le coup, on a fait faire l'école buissonnière à notre enfant parce que, on voulait lui montrer le phénomène.
Il faut pas passer à côté de ça.
Mais non, clairement pas.
Là, on a parlé des croyances du Moyen-Âge, peut-être, croyances modernes. Ouais. Est-ce qu'il y a des peuples qui ont des croyances particulières, un petit peu peut-être insolites par rapport aux éclipses?
Alors, des peurs insolites, je pense qu'il y en a. Je manquais un tout petit peu de billes pour vous répondre de manière très très honnête, mais toutes les civilisations qui accordent une importance au soleil, dès l'instant où on le voit disparaître, c'est qu'il y a, enfin, il y a quand même du souci à se faire, mais après, voilà, dans le détail, j'aurais du mal à être beaucoup plus précis. Non, après, il y a quand même quelques anecdotes qui sont... on fait souvent référence à l'éclipse de soleil de Tintin, comme, alors c'est pas un exemple historique, mais celui-là fait écho à une autre éclipse qui était, alors une éclipse pas de soleil, une éclipse de lune, là pour le coup historique, qui était celle de Christophe Colomb. Colomb avait bénéficié de, enfin avait su profiter d'une éclipse de lune, en gros pour obtenir les bonnes grâces des Indiens lors de l'un de ses voyages, en expliquant que voilà, la lune, je vais la faire disparaître, si vous ne me ramenez pas des vivres pour mon équipage, je ne la ferai pas réapparaître. Enfin, il y a une légende comme cela, ouais.
Légende.
Oui, a priori, enfin, l'éclipse a eu lieu pendant son voyage, donc a priori, c'est.
Ça se tient.
Oui, ça se tient.
Ouais. Et justement, c'est quoi le document le plus ancien qu'on a peut-être pu retrouver concernant une éclipse ?
Alors, on a des descriptions d'éclipses qui remontent à peu près à 700, vraiment des témoignages de l'astronomie babylonienne, si je ne dis pas de bêtises, qui remontent à 700 avant Jésus-Christ. Donc on a vraiment des récits. Ce sont des récits qui sont intéressants parce que, bah, comme je disais tout à l'heure là, sur la quatrième capsule, on a pu établir justement. Enfin, il y a eu une vraie question quand on a découvert l'éclipse de 236. Et là, on s'est dit mais c'est pourquoi elle a été observée à Babylone. Moi, je calcule qu'elle a eu lieu à Marseille. Donc, ce sont des témoignages qui sont importants parce qu'ils nous offrent vraiment une vraie lecture de l'histoire de la Terre sur un phénomène en plus qui n'était pas connu il y a un siècle, quoi. Donc ça reste là aujourd'hui parmi les rares contributions scientifiques. Aujourd'hui, il n'y a plus tellement de science autour des éclipses parce qu'on n'en a plus besoin. Si on veut étudier, il y a un siècle, on avait besoin des éclipses pour étudier toute la périphérie du Soleil. Aujourd'hui, on sait le faire de manière permanente. On est capable de créer des éclipses artificielles en permanence, donc on n'en a plus besoin. Mais il y a un siècle, ce n'était pas le cas.
Cette éclipse, on va avoir la chance de la voir dans de nombreuses villes en France, ouais. En Espagne également. On a parlé de l'Islande.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un pays ou des villes qui n'ont jamais eu la chance de pouvoir profiter d'une éclipse ?
Évidemment, plus le pays est petit, plus la probabilité qu'une éclipse ait lieu va être réduite. Si on regarde sur le temps long, il n'y a pas d'exclusion. Toutes les régions du monde peuvent avoir une éclipse. Alors, ce qui peut des fois paraître un petit peu frustrant, un petit peu rageant, c'est que c'est pas une répartition équitable, en tout cas pas une répartition équitable quand on regarde sur des temps courts, c'est-à-dire à l'échelle de la vie d'un homme, on va avoir l'impression que certaines régions du monde vont avoir plein d'éclipses et d'autres pas du tout. L'Espagne, par exemple, là c'est un exemple qui est super intéressant. En 3 ans de temps, on va connaître 3 éclipses. Pourquoi ? Bon, c'est le fait du hasard. Nous, on va pas connaître d'éclipses, on va pas avoir de série d'éclipses avant la fin de ce siècle, c'est-à-dire qu'entre 2080 et 2090. Bon, voilà, c'est loin. Mais on aura 3 éclipses qui vont suivre également. Après, évidemment, y a des territoires. Si vous prenez les États-Unis, c'est tellement grand que des éclipses, ils peuvent en avoir beaucoup plus souvent. J'imagine qu'au Luxembourg, ça doit être un peu plus compliqué.
Donc ça répond quelque part aussi à une autre question qui a été posée dans les couloirs de Radio Primitive. Ouais. Cette question, c'était, on nous dit toujours que les éclipses, c'est super rare, alors qu'on a quand même l'impression d'en avoir assez souvent. Donc finalement, ça répond peut-être à cette question.
Eh bien, il y en a tout. En fait, c'est si on parle vraiment en fréquence temporelle, c'est 2 par an à peu près. Donc ça n'en fait pas un phénomène rare. Mais par contre, ce qu'il faut mesurer, vraiment la... J'ai envie de dire, c'est un peu... il faut imaginer la trajectoire de l'ombre de la Lune. C'est un petit peu comme un trait de marqueur qu'on passerait sur le globe. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être dans le trait du marqueur pour pouvoir profiter du phénomène complètement. Sauf que, voilà, c'est une pointe fine. Hein. Donc la largeur de la bande de totalité, c'est quelques dizaines de kilomètres. Le globe, à lui, enfin, dans son diamètre, c'est 13 000 km pratiquement. Donc, il faut être au bon endroit. Il faut être au bon endroit sur une planète qui est recouverte à 70% d'océan. Donc, c'est ça. C'est la conjugaison du bon endroit qui est, bon, comme je disais, tous les 6 mois, mais le bon moment et qui est là pour le coup. C'est peut-être ce paramètre-là qui est le plus compliqué. C'est Enfin, le bon endroit, c'est compliqué. Vous imaginez une éclipse qui a lieu au milieu du Pacifique. Bon, je prenais l'exemple de l'éclipse qui a eu lieu au mois de février, visible. Moi, je la trouve étonnante, celle-là, se dire « on sait exactement combien de personnes l'ont vue, quoi. C'est 12, ok. Pas plus. »
Et c'est très peu, en plus.
Oui, c'est ridiculement petit.
Dernière question, peut-être un petit peu plus personnelle, pour le coup. C'est quoi votre premier souvenir, alors peut-être éclipse ou de manière générale, quand vous étiez enfant, la chose qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes un véritable passionné ?
Eh bien, on pourrait relier mon intérêt pour le ciel, peut-être justement à une photo. Alors, pas d'éclipse, mais de chasseur d'éclipse. Moi, j'ai le souvenir d'être parti en vacances avec sur les genoux un numéro de Géo à l'époque, avec sa couverture verte caractéristique. Il y avait tout un dossier qui était consacré aux astronomes, professionnels et amateurs, et l'illustration de couverture, bah, c'était justement un astronome qui avait des lunettes d'éclipse. Alors ça ressemblait, c'était pas des lunettes en carton, c'était, il avait une tête tellement extraordinaire qui me fascinait, ce bonhomme. Et je pense que il a grandement participé au parcours astronomique le long duquel je chemine depuis cette couverture. Ouais.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Émission spéciale consacrée à l'éclipse solaire en direct de l'hippodrome de Reims touche à sa fin. Vous pouvez bien évidemment la retrouver en podcast sur notre site internet radioprimitive.fr. Un grand merci à Benjamin Poupard, directeur adjoint du planétarium de Reims, à toutes ses équipes ainsi qu'à la ville de Reims pour sa confiance, son travail et l'organisation de ce bel événement auquel nous avons eu la chance d'être conviés. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très vite sur Radio Primitive.